Bretagne 5. Écoutez la Bretagne. Bretagne 5 matin. Stéphane Hamon.
Et dans l'info en Bretagne ce matin, eh bien nous allons prendre beaucoup de hauteur et faire un voyage dans l'espace où nous devrions croiser quelques trous noirs et autres exoplanètes et partir à la découverte de galaxies lointaines. Pour faire ce voyage ce matin, nous sommes en compagnie d'Éric Lagadec. Il est astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice et également président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Bonjour.
Bonjour.
Éric Lagadec, je rajouterai à cette présentation que vous êtes aussi spécialiste de poussière d'étoiles. En tout cas, vous le dites sur votre compte Twitter, spécialiste de poussière d'étoiles, ça me fait rêver.
Ben moi, c'est quelque chose qui m'a fait rêver il y a un peu plus de 20 ans, en fait. Quand j'étais à Brest, étudiant, j'ai eu un cours d'astrophysique. C'était de la physique, mais justement, il y avait de l'astrophysique dans le cours de physique. Et je me suis dit, l'astrophysique, j'ai envie de découvrir ça. Et le premier livre que j'ai lu, c'était « Poussière d'étoiles » de Hubert Reeves. Et depuis, c'est vraiment resté accroché au point où... J'ai commencé à l'étudier, faire mes recherches là-dessus et devenir un des spécialistes français de cette poussière d'étoiles.
Et quel spécialiste ? On vous voit assez souvent dans les médias avec cette faculté de pouvoir raconter les choses, de pouvoir mettre à portée de tous des choses parfois qui nous échappent. Alors Éric Lagadec, je serais tenté de vous dire, vous avez 10 minutes pour nous raconter l'univers. Est-ce que c'est possible ?
Si vous voulez le raconter en temps réel, il me faudrait 13,8 milliards d'années, mais si vous me donnez 10 minutes, je vais évidemment faire quelques raccourcis. Donc voilà, l'idée c'est de raconter justement, de rappeler que notre univers a commencé il y a 13,8 milliards d'années par ce qu'on appelle le Big Bang, donc c'est le début de la formation de l'univers. L'univers entier était contenu dans quelque chose de très très petit, il faisait très très chaud, donc des milliards de degrés, et vraiment toute la matière, tout l'univers qu'on connaît aujourd'hui, était contenu dans quelque chose d'infiniment petit et qui depuis a grandi en expansion. Et c'est ce qu'on appelle donc le Big Bang, la formation de notre univers, il y a 13,8 milliards d'années.
On va faire une grande ellipse, vous allez me permettre cette ellipse, Éric Lagadec, parce que je n'ai pas à ma disposition 13,8 milliards d'années. Là, je pense que mon réalisateur me tirerait l'oreille en me disant on n'est pas dans le timing. Le 12 juillet dernier, le président américain Joe Biden dévoilait la première image du télescope James Webb. En quoi cette première image révolutionne notre connaissance de l'univers?
C'est quelque chose de self-finant. Donc, je vous dis tout à l'heure, l'univers s'est formé il y a 13,8 milliards d'années, il faisait très très chaud, et il est en expansion. Donc il se refroidit, et seulement 380 000 ans après le Big Bang, on a la première lumière. Donc ça, c'est une lumière qui a déjà été observée avant. Mais la question qu'on se posait, c'est comment vont se former les premières étoiles, les premières galaxies? Et pour ça, c'est important d'avoir un assez grand télescope qui va pouvoir collecter beaucoup de lumière pour voir des choses faibles, et de voir cette lumière dans l'infrarouge, parce que c'est comme l'univers en expansion depuis le Big Bang, il se trouve que la lumière que l'on observe des astres très lointains se décale vers le rouge. C'est quelque chose qu'on appelle l'effet Doppler. Vous faites sûrement l'expérience de cet effet tous les jours. Si vous entendez une ambulance, vous allez voir si elle se rapproche, le son devient de plus en plus aigu. Si elle s'éloigne, le son devient de plus en plus grave. C'est juste que quelque chose qui se déplace par rapport à vous, sa fréquence va changer. C'est pareil pour la lumière. La lumière... loin au moment du Big Bang, se décale vers le rouge. Donc la lumière qui a été émise, maintenant, elle émet dans l'infrarouge. Et ce télescope, James Webb, est un très grand entonnoir à lumière infrarouge. Donc il va pouvoir capter la lumière infrarouge facilement. Et c'est ce qu'il a fait. Il a pointé pendant quelques heures dans une portion du ciel toute petite. Vous prenez votre doigt, tendez votre doigt, mettez un grain de sable dessus. Imaginez qu'il y a un grain de sable sur votre doigt et regardez le ciel. Vous voyez le grain de sable forme un angle tout petit sur le ciel. C'est ce qu'a pointé le télescope James Webb. Et là, le 12 juillet, on a vu cette image présentée par Joe Biden, le président des États-Unis, sur cette petite fraction de ciel, une fraction minuscule, où on voit des milliers de galaxies. Et on en voit certaines dont la lumière qui est arrivée sur le télescope a mis plus de 13 milliards d'années pour arriver sur le télescope. Donc on voit des sortes de bébés galaxies, des galaxies qui se sont formées juste après le Big Bang. C'est vraiment incroyable, on a une machine à remonter dans le temps nous permet de voir ces premières galaxies. C'était vraiment un moment assez inoubliable et chargé d'émotions pour tous les astrophysiciens et même les amateurs d'astronomie sur toute la planète.
En tout cas, on a attendu cette image, elle a été diffusée en direct par le canal de la NASA, entre autres, comme aux plus belles heures finalement de la NASA, du temps du programme Apollo, pour communiquer en fait cette image grâce à ce télescope James Webb. Mais on avait un autre télescope, on connaissait le nom au moins de ce télescope, Hubble. Qu'est-ce que James Webb apporte par rapport à Hubble ?
Il y a deux choses. Donc déjà, il faut voir, j'aime bien faire l'analogie, venant de Bretagne, c'est quelque chose qui me parle bien, c'est de dire s'il pleut, on met un seau dehors, si on a un seau qui est plus grand, on recevra plus de pluie avec le petit seau. Le télescope, c'est pas un seau à eau, mais un seau à lumière. Donc on a un télescope, plus il est grand, plus il va recevoir de lumière. Et du coup, le James Webb est plus grand que le télescope Hubble, ce qui fait qu'il reçoit plus de lumière. Et contrairement au télescope Hubble, qui est capable de voir la lumière visible, donc ce que voit notre œil, le télescope James Webb est capable, lui, de voir de la lumière infrarouge, ce qui est vraiment important pour voir justement ces lumières des premières galaxies.
Alors, ces galaxies que l'on découvre, on en a découvert des nouvelles là, depuis les premières images, parce que le télescope en a envoyé d'autres, des images. D'ailleurs, il y a quelques jours, cette image vraiment très belle d'une galaxie en spirale. Est-ce que vraiment la communauté scientifique est très fébrile, justement, j'allais employer le mot?
Il y a des découvertes quasiment tous les jours. Bah, déjà, vous parlez de découvrir des galaxies. Sur n'importe quelle image que l'on fait avec le télescope James Webb, on va pointer Jupiter, par exemple, bah, on va voir des galaxies derrière, parce qu'il est tellement sensible qu'on voit des galaxies partout. Une des grosses découvertes, j'en parlais avec mes collègues à Nice pas plus tard que ce matin, on a trouvé du CO2, donc du dioxyde de carbone, autour d'une planète. C'était la première fois qu'on le faisait. Il y a de la vapeur d'eau qui est trouvée sur une planète, on comprend mieux la mort des étoiles. On a des observations. Hier, il y a aussi mes collègues à Nice, qui est à Grenoble, Marseille et Paris, qui ont sorti la première image d'une exoplanète, donc une planète qui tourne autour d'une étoile que le Soleil. Donc la première image avec le James Webb, qui nous a permis de comprendre cette exoplanète, de voir quel était son rayon, quelle était sa température, sa masse. En fait, il y a chaque fois qu'on prend le télescope James Webb, on découvre quelque chose de nouveau. C'est vraiment plein de promesses pour l'avenir, parce que ce télescope va être là pendant 10, 15, 20 ans et on va faire beaucoup de belles découvertes.
Et on imagine que la technologie va évoluer et que James Webb aura peut-être un remplaçant dans plus de 20 ans peut-être.
Même avant, il faut savoir, j'aime bien expliquer en fait que l'astronomie, on utilise des télescopes. Et chaque télescope, il va pouvoir observer différentes parties du ciel, enfin différentes façons d'observer le ciel. Par exemple, on aura la lumière visible, la lumière infrarouge, la lumière radio. Et j'aime bien faire la comparaison. C'est-à-dire que si on va à un concert, par exemple, imaginez, vous allez dans une salle de concert, et vous êtes capable d'écouter seulement le « la », la note « la ». Vous n'allez pas comprendre grand-chose au concert. Si vous avez d'autres moyens, vous allez découvrir le « la », le « do », le « ré », le « mi », et petit à petit, vous allez comprendre la musique. L'univers, c'est quelque chose d'assez complexe, et la lumière que l'on reçoit pour étudier l'univers, elle émet dans les ondes radio, dans le visible, dans l'infrarouge, dans les rayons gamma, dans les rayons X. Donc si on a des télescopes qui fonctionnent à différents domaines de longueur d'onde, on va mieux comprendre l'univers. Donc, il y aura des nouveaux télescopes qui seront complémentaires au James Webb, qui nous permettront de mieux comprendre l'univers.
On essaie de comprendre l'univers, puis il y a forcément une question qui arrive à un moment ou à un autre. Alors, je ne vais pas vous parler de petits hommes verts, hein, je vous rassure. Mais,
Le droit d'en parler, en plus.
Et vous n'avez pas le droit d'en parler. je vais juste vous demander, est-ce qu'il y a aussi la possibilité de rencontrer la vie? On parlait des exoplanètes tout à l'heure. Pas forcément une vie telle qu'on peut l'imaginer sur la Terre, mais une vie sous forme de plantes, par exemple, ou d'organismes.
Ben, c'est l'une des questions fondamentales. Je pense que tout le monde sur Terre s'est déjà posé la question une fois, au moins, en regardant les étoiles. Est-ce qu'il y a des planètes autour? Est-ce que sur ces planètes, il y a de la vie? Donc, est-ce que le James Webb trouvera de la vie? C'est difficile de répondre. Déjà, à la question, est-ce qu'il y a de la vie ailleurs, moi, en tant qu'astrophysicien, je peux vous dire que jamais je vous dirai non. Si on n'a pas trouvé, c'est peut-être qu'on n'a pas assez cherché. Mais je ne veux pas vous dire que c'est le cas tant qu'on n'a pas trouvé. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, on est capable de faire des images de ces planètes, d'analyser aussi leur atmosphère et de comprendre un petit peu de quoi elles sont faites. Donc, on devrait, là, discuter avec des collègues, a priori, pouvoir analyser des planètes similaires à la Terre et peut-être voir des signes de vie dans leur atmosphère. A priori, le James Webb ne devrait pas trouver des signes de vie, ce serait plutôt les futurs télescopes qui sont en train d'être préparés actuellement par mes collègues, justement. Mais pourquoi pas, et peut-être qu'un jour, on annoncera, il y aura une annonce, on a trouvé une planète et autour de cette planète, on a découvert de la vie. Et j'aime bien citer Alexandre Astier sur ça. Alexandre Astier se disait qu'il est un grand fan d'astronomie. Imaginez qu'on annonce un jour la découverte de la vie ailleurs. Si c'est le soir où il y a la finale de la Coupe du Monde de foot, est-ce que les gens écouteront? J'espère que si on découvre de la vie autour d'une autre planète, j'espère que ce ne sera pas le soir de la finale de la Coupe du Monde.
On l'espère aussi, parce que je pense que la nouvelle sera quand même assez fascinante, il faut bien le dire. Allez, il nous reste une poignée de secondes, Éric Lagadec, hein, quand je vous disais que le temps allait très vite, aussi en radio, bien entendu. Je voulais vous poser aussi cette question autour des trous noirs, parce que vous publiez sur votre compte Twitter, vous êtes très présent sur les réseaux sociaux, et on peut se régaler d'ailleurs de vos magnifiques photos, comme celle de Vénus ou de Jupiter, et puis il y a aussi ces photos de trous noirs qui sont souvent des compositions d'artistes, et vous expliquez les trous noirs. Alors, je ne vais pas vous demander en 15 secondes de nous expliquer comment fonctionne un trou noir, mais c'est encore des objets qui sont à analyser par les scientifiques.
Oui, je pense aussi que ce sont des objets qui fascinent. Je sais que chaque fois que je vais parler d'astronomie, je vais donner une conférence sur la poussière d'étoiles, sur les planètes. La première question qu'on va me poser, ça va être évidemment sur les trous noirs. Donc c'est un objet qui fascine. Et il se trouve que récemment, on a été capable de faire des grandes découvertes. Donc on a caractérisé le trou noir qui se trouve au centre de notre galaxie. Donc on a pu voir les étoiles qui tournent autour, même en faire une image, se rendre compte qu'on a un mastodonte qui fait 4 millions de fois la masse du Soleil au cœur de notre galaxie. Et là, le 13 mai dernier, c'était vraiment hallucinant. Ça a été annoncé en grande pompe par des collègues qui travaillent sur un télescope qui s'appelle l'Event Horizon Telescope. Voilà, on a vu pour la première fois le trou noir au centre de notre galaxie. Et c'est vraiment, j'ai l'impression que l'astronomie, on vit une ère formidable avec des grandes découvertes, et notamment sur les trous noirs. Et ça fait rêver les gens, et je pense que c'est important parce que l'astronomie, ça permet de lever les yeux vers le ciel, de changer les idées, mais aussi de mieux comprendre la science, d'avoir une culture scientifique. Et je pense qu'avec, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est face à des enjeux scientifiques majeurs, mieux comprendre la science est important, et j'espère qu'avec l'astronomie, on pourra réussir à mieux comprendre les sciences, justement.
Eh bien, Eric Lagadec, on va devoir se quitter. Moi, je vais renvoyer nos amis auditeurs et auditrices à votre compte Twitter, qui compte déjà beaucoup de fans, si j'ose dire. En guise de conclusion, vous allez peut-être me dire que les plus beaux ciels sont en Bretagne, parce que vous avez mis quelques photos de ciel breton et de notre galaxie, la Voie lactée, vue depuis la Bretagne, c'est quelque chose.
Évidemment, les gens qui ne connaissent pas la Bretagne ne se rendent pas compte qu'on a un ciel formidable. Souvent, les gens associent la Bretagne aux nuages, mais on a la chance d'avoir des endroits sans pollution lumineuse. Et moi, j'ai vu les plus beaux ciels du monde, je pense. J'ai observé dans les plus grands observatoires du monde. Et j'ai toujours un grand plaisir à revenir en Bretagne et admirer le ciel de nuit, vraiment voir la Voie lactée, les étoiles. Et j'ai qu'un seul message à passer, c'est profiter de ce ciel, lever les yeux, rêver et essayer de comprendre l'univers. C'est le plus bel héritage commun d'humanité, donc partageons-le.
Eh bien, merci Eric Lagadec de nous avoir fait rêver et peut-être, allez, qui sait, susciter des vocations parmi nos jeunes auditeurs. Ils sont nombreux à vous suivre, je crois, également sur Twitter. Eric Lagadec, je rappelle que vous êtes astrophysicien à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice et président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique. Vous étiez en direct avec nous en ce lundi matin pour nous faire rêver. Merci beaucoup et très belle journée.
Au revoir.
Bretagne 5 matin, Stéphane Hamon. Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.